Mémoire d'outre-tombe de François-René de Chateaubriand. Troisième partie, livre vingtième. Position de la France au retour de Bonaparte de la campagne d'Égypte. 2. Consulat. Nouvelle invasion de l'Italie. Campagne de 30 jours. Victoire de Hohenlinden. Paix de Lunéville. 3. Paix d'Amiens. Rupture du traité. Bonaparte élevé à l'Empire. 4. Empire. Sacre. Royaume d'Italie. 5. Invasion de l'Allemagne. Austerlitz. Traité de paix de Presbourg, le Sanhedrin, 6. Quatrième coalition, la Prusse disparaît, décret de Berlin, guerre continuée en Pologne contre la Russie. Tilsit, projet de partage du monde entre Napoléon et Alexandre. Paix. 7. Guerre d'Espagne, Erfurt, apparition de Wellington. 8. Pie 7, réunion des États romains à la France. 9. Protestation du souverain pontife, il est enlevé de Rome. 10. Cinquième coalition, prise de Vienne, bataille d'Essling, bataille de Wagram, paix signée dans le palais de l'empereur d'Autriche. Divorce, Napoléon épouse Marie-Louise. Naissance du roi de Rome. 11. Projets et préparatifs de la guerre de Russie, embarras de Napoléon. 12. L'empereur entreprend l'expédition de Russie. Objection. Faute de Napoléon. 13. Réunion à Dresde. Bonaparte passe en revue son armée et arrive au bord du Niémen. Chapitre 1. Position de la France au retour de Bonaparte de la campagne d'Égypte. Je quittai l'Angleterre quelques mois après que Napoléon eut quitté l'Égypte. Nous revînmes en France presque en même temps, lui de Memphis, moi de Londres. Il avait saisi des villes et des royaumes. Ses mains étaient pleines de puissantes réalités. Je n'avais encore pris que des chimères. Que s'était-il passé en Europe pendant l'absence de Napoléon? La guerre, recommençait en Italie, au royaume de Naples et dans les États de Sardaigne. Rome et Naples, momentanément occupés. Pie VI, prisonnier, amené pour mourir en France. Traité d'alliance conclu entre les cabinets de Pétersbourg et de Londres. Deuxième coalition continentale contre la France. Le 8 avril 1799, le congrès de Radstad est rompu. Les plénipotentiaires français sont assassinés. Suvarov, arrivé en Italie, bat les Français à Cassano. La citadelle de Milan se rend au général russe. Une de nos armées, forcée d'évacuer Naples, se soutient à peine, commandée par le général Macdonald. Masséna défend la Suisse. Mantoue succombe après un blocus de 72 jours et un siège de 20. Le 15 octobre 1799, le général Joubert, tué à Novi, laisse le champ libre à Bonaparte. Il était destiné à jouer le rôle de celui-ci. Malheur à qui barrait une fortune fatale, témoins Hoche, Moreau et Joubert. 20 000 Anglais, descendus au Helder, y restent inutiles. Leur flotte en partie est bloquée par les glaces. Notre cavalerie charge sur des vaisseaux et les prend. 18 000 Russes, auxquels les combats et les fatigues ont réduit l'armée de Suvarov, ayant passé le Saint-Gothard le 24 septembre, se sont engagés dans la vallée de la Reuss. Masséna sauve la France à la bataille de Zurich. Suvarov, rentré en Allemagne, accuse les Autrichiens et se retire en Pologne. Telle était la position de la France lorsque Bonaparte reparaît, renverse le directoire et établit le consulat. Avant de m'engager plus loin, je rappellerai une chose dont on doit déjà être convaincu. Je ne m'occupe pas d'une vie particulière de Bonaparte. Je trace l'abrégé et le résumé de ses actions. Je peins ses batailles, je ne les décris pas. On les trouve partout, depuis Pomerol qui a donné les campagnes d'Italie jusqu'à nos généraux, critiques et censeurs des combats où ils assistèrent, jusqu'aux tacticiens étrangers, anglais, russes, allemands, italiens, espagnols. Les bulletins publics de Napoléon et ses dépêches secrètes forment le fil très peu sûr de ses narrations. Les travaux du lieutenant-général Jomini fournissent la meilleure source d'instruction. L'auteur est d'autant plus croyable qu'il a fait preuve d'étude dans son traité de la grande tactique et dans son traité des grandes opérations militaires. Admirateur de Napoléon jusqu'à l'injustice, attaché à l'état-major du maréchal Ney, on a de lui l'histoire critique et militaire des campagnes de la Révolution. Il a vu de ses propres yeux la guerre en Allemagne, en Prusse, en Pologne et en Russie, jusqu'à la prise de Smolensk. Il était présent en Saxe au combat de 1813. De là, il passa alors aux Alliés. Il fut condamné à mort par un conseil de guerre de Bonaparte et nommé au même moment aide de camp de l'empereur Alexandre. Attaqué par le général Sarrazin dans son histoire de la guerre de Russie et d'Allemagne, Jomini lui répliqua. Jomini a eu à sa disposition les matériaux déposés au ministère de la guerre et aux autres archives du royaume. Il a contemplé à l'envers la marche rétrograde de nos armées après avoir servi à les guider en avant. Son récit est lucide et entremêlé de quelques réflexions fines et judicieuses. On lui a souvent emprunté des pages entières, sans le dire. Mais je n'ai point la vocation de copiste, et je n'ambitionne point le renom suspect d'un César méconnu, auquel il n'a manqué qu'un casque pour soumettre de nouveau la terre. Si j'avais voulu venir au secours de la mémoire des vétérans en manœuvrant sur des cartes, en courant autour des champs de bataille couverts de paisibles moissons, en extrayant tant et tant de documents, en entassant description sur description toujours les mêmes, j'aurais accumulé volume sur volume. Je me serais fait une réputation de capacité, au risque d'ensevelir, sous mes labeurs, moi, mon lecteur et mon héros. N'étant qu'un petit soldat, je m'humilie devant la science des vieillesses. Je n'ai point pris, pour mon public, les officiers à demi-solde. Le moindre caporal en sait plus que moi. Chapitre 2. Consulat. Nouvelle invasion de l'Italie. Campagne de 30 jours. Victoire de Hohenlinden. Paix de Lunéville. Pour s'assurer de la place où il s'était assis, Napoléon avait besoin de se surpasser en miracle. Le 25 et le 30 avril 1800, les Français franchissent le Rhin, Moreau à leur tête. L'armée autrichienne, battue 4 fois en 8 jours, recule d'un côté jusqu'au Vorarlberg, de l'autre jusqu'à Ulm. Bonaparte passe le Grand Saint-Bernard le 16 mai, et le 20, le Petit Saint-Bernard, le Saint-Plon, le Saint-Gothard, le Mont-Cenis, le Mont-Genèvre sont escaladés et emportés. Nous pénétrons en Italie par trois débouchés réputés imprenables. Caverne des ours, rocher des aigles. L'armée s'empare de Milan le 2 juin et la République cisalpine se réorganise. Mais Gênes est obligée de se rendre après un siège mémorable soutenu par Masséna. L'occupation de Pavie et l'affaire heureuse de Montebello précèdent la victoire de Marengo. Une défaite commence cette victoire. Les corps de Lannes et de Victor, épuisés, cessent de combattre et abandonnent le terrain. La bataille se renouvelle avec 4000 hommes d'infanterie que conduit Dessay et qu'appuie la brigade de cavalerie de Kellermann. Dessay est tué. Une charge de Kellermann décide le succès de la journée qu'achève de compléter l'esprit commun de Mélas. Dessay, gentilhomme d'Auvergne, sous-lieutenant dans le régiment de Bretagne, aide de camp du général Victor de Breuil, commanda en 1796 une division de l'armée de Moreau et passa en Orient avec Bonaparte. Son caractère était désintéressé, naïf et facile. Lorsque le traité d'El Arish l'eut rendu libre, il fut retenu par Lord Case au lazaret de Livourne. « Quand les lumières étaient éteintes, dit Mio, son compagnon de voyage, notre général nous faisait conter des histoires de voleurs et de revenants. Il partageait nos plaisirs et apaisait nos querelles. Il aimait beaucoup les femmes et n'aurait voulu mériter leur amour que par son amour pour la gloire. À son débarquement en Europe, il reçut une lettre du premier consul qui l'appelait auprès de lui. Elle l'attendrit. Et Dessay disait « Ce pauvre Bonaparte est couvert de gloire et il n'est pas heureux. » Lisant dans les journaux la marche de l'armée de réserve, il s'écriait « Il ne nous laissera rien à faire. » Il lui laissait à lui donner la victoire et à mourir. Dessay fut inhumé sur le haut des Alpes, à l'hospice du mont Saint-Bernard, comme Napoléon sur les mornes de Sainte-Hélène. Kléber, assassiné, trouva la mort en Égypte, de même que Dessay la rencontra en Italie. Après le départ du commandant en chef, Kléber, avec 11 000 hommes, défait 100 000 Turcs sous les ordres du grand vizir à Héliopolis, exploit auquel Napoléon n'a rien à comparer. Le 16 juin, convention d'Alexandrie. Les Autrichiens se retirent sur la rive gauche du Bas-Po. Le sort de l'Italie est décidé dans cette campagne, appelée de 30 jours. Le triomphe d'Ochdette, obtenu par Moreau, console l'ombre de Louis XIV. Cependant, l'armistice entre l'Allemagne et l'Italie, conclu après la bataille de Marengo, était dénoncé le 20 octobre 1800. Le 3 décembre amena la victoire de Hohenlinden, au milieu d'une tempête de neige. Victoire encore obtenue par Moreau, grand général, sur qui dominait un autre grand génie. Le compatriote de Du Guesclin marche sur Vienne. À 25 lieues de cette capitale, il conclut la suspension d'armes de Steyr avec l'archiduc Charles. Après la bataille de Pozzolo, le passage du Mincio, de la Dige et de la Brenta survient le 9 février 1801, le traité de paix de Lunéville. Et il n'y avait pas 9 mois que Napoléon était au bord du Nil. 9 mois lui avaient suffi pour renverser la révolution populaire en France et pour écraser les monarchies absolues en Europe. Je ne sais plus si c'est à cette époque qu'il faut placer une anecdote que l'on trouve dans des mémoires familiers, et si cette anecdote mérite la peine d'être rappelée. Mais il ne manque pas d'historiettes sur César. La vie n'est pas toute en plaine, on monte quelquefois, on descend souvent. Napoléon avait reçu dans son lit à Milan une Italienne de 16 années, belle comme le jour. Au milieu de la nuit, il la renvoya, de même qu'il aurait fait jeter par la fenêtre un bouquet de fleurs. Une autre fois, une de ses printanières s'était glissée dans le même palais que lui. Elle rentrait à 3 heures du matin, faisait le sabbat, et roulait ses jeunes années sur la tête du lion, ce jour-là plus patient. Ses plaisirs, loin d'être l'amour, n'avaient même pas une vraie puissance sur un homme de la mort. Il aurait incendié Persépolis pour son propre compte, non pour les joies d'une courtisane. François Ier, dit Tavannes, voit les affaires quand il n'a plus de femmes. Alexandre voit les femmes quand il n'a plus d'affaires. Les femmes, en général, détestaient Bonaparte comme mère. Elles l'aimaient peu comme femme parce qu'elles n'en étaient pas aimées. Sans délicatesse, il les insultait ou ne les recherchait que pour un moment. Il a inspiré quelques passions d'imagination après sa chute. En ce temps-ci, et pour un cœur de femme, la poésie de la fortune est moins séduisante que celle du malheur. Il y a des fleurs de ruines. À l'instar de l'ordre des chevaliers de Saint-Louis, la Légion d'honneur est créée. Par cette institution passe un rayon de la vieille monarchie et s'introduit un obstacle à la nouvelle égalité. La translation des cendres de Turenne aux Invalides fit estimer Napoléon. L'expédition du capitaine Baudin portait sa renommée autour du monde. Tout ce qui pouvait nuire au premier consul échoue. Il se débarrasse du complot des prévenus du 18 Vendémiaire et échappe le 3 Nivose à la machine infernale. Pitt se retire. Paul meurt. Alexandre lui succède. On n'apercevait point encore Wellington, mais l'Inde s'ébranle pour nous enlever notre conquête du Nil. L'Égypte est attaquée par la mer Rouge, tandis que le capitaine Pacha l'aborde par la Méditerranée. Napoléon agite les empires. Toute la terre se mêlait de lui. Chapitre 3. Paix d'Amiens, rupture du traité, Bonaparte élevé à l'Empire. Les préliminaires de la paix entre la France et l'Angleterre, arrêtés à Londres le 1er octobre 1801, sont convertis en traité à Amiens. Le monde napoléonien n'était point encore fixé. Ses limites changeaient avec la crue ou la décroissance des marées de nos victoires. C'est à peu près alors que le premier consul nommait Toussaint Louverture gouverneur à vie à Saint-Domingue et incorporait l'île d'Elbe à la France. Mais Toussaint, traîtreusement enlevé, devait mourir dans un château fort du Jura, et Bonaparte se nantissait d'une prison à Porto Verraccio afin de subvenir à l'empire du monde quand il n'y aurait plus de place. Le 6 mai 1802, Napoléon est élu consul pour 10 ans et bientôt consul à vie. Il se trouve à l'étroit dans la vaste domination que la paix avec l'Angleterre lui avait laissée. Sans s'embarrasser du traité d'Amiens, sans songer aux guerres nouvelles où sa résolution va le plonger, sous prétexte de la non-évacuation de Malte, il réunit les provinces du Piémont aux États français, et en raison des troubles survenus en Suisse, il l'occupe. L'Angleterre rompt avec nous. Cette rupture a lieu du 13 au 20 mai 1803. Et le 22 mai paraît le décret sauvage qui enjoint d'arrêter tous les Anglais commerçants ou voyageant en France. Bonaparte envahit le 3 juin l'électorat de Hanovre. À Rome, je fermais alors les yeux d'une femme ignorée. Le 21 mars 1804 amène la mort du duc d'Enghien. Je voulais raconter. Le même jour, le code civil ou le code Napoléon est décrété pour nous apprendre à respecter les lois. 40 jours après la mort du duc d'Enghien, un membre du tribunat, nommé curé, fait, le 30 avril 1804, la motion d'élever Bonaparte au suprême pouvoir, apparemment parce qu'on avait juré la liberté. Jamais maître plus éclatant n'est sorti de la proposition d'un esclave plus obscur. Le Sénat, conservateur, change en décret la proposition du tribunat. Bonaparte n'imite ni César, ni Cromwell. Plus assuré devant la couronne, il l'accepte. Le 18 mai, il est proclamé empereur à Saint-Cloud, dans les salles dont lui-même chassa le peuple, dans les lieux où Henri III fut assassiné, Henriette d'Angleterre empoisonnée, Marie-Antoinette accueillie de quelques joies fugitives qui la conduisirent à l'échafaud, et d'où Charles X est parti pour son dernier exil. Les adresses de congratulation débordent. Mirabeau, en 1790, avait dit « Nous donnons un nouvel exemple de cette aveugle et mobile inconsidération qui nous a conduits d'âge en âge à toutes les crises qui nous ont successivement affligés. Il semble que nos yeux ne puissent être dessillés et que nous ayons résolu d'être jusqu'à la consommation des siècles des enfants quelquefois mutins et toujours esclaves. Le plébiscite du 1er décembre 1804 est présenté à Napoléon. L'empereur répond « Mes descendants conserveront longtemps ce trône. » Quand on voit les illusions dont la Providence environne le pouvoir, on est consolé par leur courte durée. Chapitre 4. Empire, Sacre, Royaume d'Italie. Le 2 décembre 1804, eurent lieu le sacre et le couronnement de l'empereur à Notre-Dame de Paris. Le pape prononça cette prière. Dieu tout-puissant et éternel, qui avait établi Azaël pour gouverner la Syrie, et Jéhu, roi d'Israël, en leur manifestant vos volontés par l'organe du prophète Élie, qui avait également répandu l'onction sainte des rois sur la tête de Saül et de David, par le ministère du prophète Samuel. Répandez, par mes mains, le trésor de vos grâces et de vos bénédictions sur votre serviteur Napoléon, que, malgré notre indignité personnelle, nous consacrons aujourd'hui empereur en votre nom. Pie VII, n'étant encore qu'évêque d'Imola, avait dit en 1797 « Oui, mes très chers frères, Siate buoni Christiani et sarete ottimi democratici. Les vertus morales rendent bons démocrates. Les premiers chrétiens étaient animés de l'esprit de démocratie. Dieu favorisa les travaux de Caton d'Utique et des illustres républicains de Rome. Quo turbine fertur vita hominum? Le 18 mars 1805, l'empereur déclare au Sénat qu'il accepte la couronne de fer que lui sont venus offrir les collèges électoraux de la République cisalpine. Il était à la fois l'inspirateur secret du vœu et l'objet public du vœu. Peu à peu, l'Italie entière se range sous ses lois. Il l'attache à son diadème, comme au XVIe siècle, les chefs de guerre mettaient un diamant en guise de bouton à leur chapeau. Chapitre 5. Invasion de l'Allemagne. Austerlitz. Traité de paix de Presbourg. Le Sanhédrin. L'Europe, blessée, voulut mettre un appareil à sa blessure. L'Autriche adhère au traité de Pétersbourg conclu entre la Grande-Bretagne et la Russie. Alexandre et le roi de Prusse ont une entrevue à Potsdam, ce qui fournit à Napoléon un sujet d'ignoble moquerie. La troisième coalition continentale sourdit. Ces coalitions renaissaient sans cesse de la défiance et de la terreur. Napoléon s'éjouissait dans les tempêtes. il profite de celle-ci. Du rivage de Boulogne, où il décrétait une colonne et menaçait Albion avec des chaloupes, il s'élance. Une armée, organisée par Davout, se transporte, comme un nuage à la rive du Rhin. Le 1er octobre 1805, l'empereur harangue ses 160 000 soldats. La rapidité de son mouvement déconcerte l'Autriche. Combat du Lech, combat de Wertingen, combat de Kunzburg. Le 17 octobre, Napoléon paraît devant Ulm. Il fait à Mack le commandement « Arme bas ». Mack obéit avec ses 30 000 hommes. Munich se rend, Linn est passé, Salzbourg pris, la Traune franchie. Le 13 novembre, Napoléon pénètre dans une de ses capitales qu'il visitera tour à tour. Il traverse Vienne, enchaîné à ses propres triomphes. Il est emmené à leur suite jusqu'au centre de la Moravie, à la rencontre des Russes. À gauche, la Bohême s'insurge. À droite, les Hongrois se lèvent. L'archiduc Charles accourt d'Italie. La Prusse, entrée clandestinement dans la coalition et ne s'étant pas encore déclarée, envoie le ministre Ogwitz, porteur d'un ultimatum. Arrive le 2 décembre 1805, la journée d'Austerlitz. Les Alliés attendaient un troisième corps russe qui n'était plus qu'à 8 marches de distance. Kutuzov soutenait qu'on devait éviter de risquer une bataille. Napoléon, par ses manœuvres, force les Russes d'accepter le combat. Ils sont défaits. En moins de 2 mois, les Français, partis de la mer du Nord, ont, par-delà la capitale de l'Autriche, écrasé les légions de Catherine. Le ministre de Prusse vient féliciter Napoléon à son quartier général. « Voilà, lui dit le vainqueur, un compliment dont la fortune a changé l'adresse. » François II se présente à son tour au bivouac du soldat heureux. « Je vous reçois, lui dit Napoléon, dans le seul palais que j'habite depuis 2 mois. Vous savez si bien tirer parti de cette habitation, répondit François, qu'elle doit vous plaire. De pareils souverains valaient-ils la peine d'être abattus? Un armistice est accordé. Les Russes se retirent en 3 colonnes, à journée d'étape, dans un ordre déterminé par Napoléon. Depuis la bataille d'Austerlitz, Bonaparte ne fait presque plus que des fautes. Le traité de paix de Presbourg est signé le 26 décembre 1805. Napoléon fabrique 2 rois, l'électeur de Bavière et l'électeur de Württemberg. Les républiques que Bonaparte avait créées, il les dévorait pour les transformer en monarchie. Et contradictoirement à ce système, le 27 décembre 1805, au château de Schönbrunn, il déclare que la dynastie de Naples a cessé de régner. Mais c'était pour la remplacer par la sienne. À sa voix, les rois entraient ou sautaient par les fenêtres. Les desseins de la Providence ne s'accomplissaient pas moins avec ceux de Napoléon. On voit marcher à la fois Dieu et l'homme. Bonaparte, après sa victoire, ordonne de bâtir le pont d'Austerlitz à Paris, et le ciel ordonne à Alexandre d'y passer. La guerre commencée dans le Tyrol s'était poursuivie, tandis qu'elle continuait en Moravie. Au milieu des prosternations, quand on trouve un homme debout, on respire. Hofer, le Tyrolien, ne capitula pas comme son maître, mais la magnanimité ne touchait point Napoléon. Elle lui semblait stupidité ou folie. L'empereur d'Autriche abandonna Hofer. Lorsque je traversais le lac de Garde, qu'immortalisèrent Catulle et Virgile, on me montra l'endroit où fut fusillé le chasseur. C'est tout ce que j'ai su personnellement du courage du sujet et de la lâcheté du roi. Le prince Eugène, le 14 janvier 1806, épousa la fille du nouveau roi de Bavière. Les trônes s'abattaient de toutes parts dans la famille d'un soldat de la Corse. Le 20 février, l'empereur décrète la restauration de l'église de Saint-Denis. Il consacre les caveaux reconstruits à la sépulture des princes de sa race. Et Napoléon n'y sera jamais enseveli. L'homme creuse la tombe, Dieu en dispose. Bergues et Clèves sont dévolus à Murat, les deux Siciles à Joseph. Un souvenir de Charlemagne traverse la cervelle de Napoléon et l'université est érigée. La République batave, contrainte à aimer les princes, envoie le 5 juin 1806 implorer Napoléon afin qu'il daignât lui accorder son frère Louis pour roi. L'idée de l'association de la Batavie à la France, par une union plus ou moins déguisée, ne provenait que d'une convoitise sans règle et sans raison. C'était préférer une petite province à fromage aux avantages qui résulteraient de l'alliance d'un grand royaume ami, en augmentant sans profit les frayeurs et les jalousies de l'Europe. C'était confirmer aux Anglais la possession de l'Inde en les obligeant, pour leur sûreté, de garder le cap de Bonne-Espérance et Ceylan dont ils s'étaient emparés à notre première invasion de la Hollande. La scène de l'octroiement des Provinces unies au prince Louis était préparée. On donna, au château des Tuileries, une seconde représentation de Louis XIV, faisant paraître au château de Versailles son petit-fils, Philippe V. Le lendemain, il y eut déjeuner en grand gala dans le salon de Diane. Un des enfants de la reine Hortense entre. Bonaparte lui dit « Chouchou, répète-nous la fable que tu as apprise. » L'enfant aussitôt « Les grenouilles qui demandent un roi. » Et il continue « Les grenouilles se lassant de l'état démocratique, par leur clameur firent tant que Jupin leur envoie un roi tout pacifique. » Assis derrière la récente souveraine de Hollande, l'empereur, selon une de ses familiarités, lui pinçait les oreilles. S'il était de grande société, il n'était pas toujours de bonne compagnie. Le 17 de juillet 1806 a lieu le traité de la Confédération des États du Rhin. 14 princes allemands se séparent de l'Empire, s'unissent entre eux et avec la France. Napoléon prend le titre de protecteur de cette confédération. Le 20 juillet, la paix de la France avec la Russie étant signée, François II, par suite de la Confédération du Rhin, renonce le 6 août à la dignité d'empereur électif d'Allemagne et devient empereur héréditaire d'Autriche. Le Saint-Empire romain croule. Cet immense événement fut à peine remarqué. Après la Révolution française, tout était petit. Après la chute du trône de Clovis, on entendait à peine le bruit de la chute du trône germanique. Au commencement de notre Révolution, l'Allemagne comptait une multitude de souverains. Deux principales monarchies tendait à attirer vers elle les différents pouvoirs. L'Autriche, créée par le temps, la Prusse par un homme. Deux religions divisaient le pays et s'asseyaient tant bien que mal sur les bases du traité de Westphalie. L'Allemagne rêvait l'unité politique, mais il manquait à l'Allemagne, pour arriver à la liberté, l'éducation politique, comme pour arriver à la même liberté, l'éducation militaire manque à l'Italie. L'Allemagne, avec ses anciennes traditions, ressemblait à ces basiliques aux clochetons multiples, lesquelles pèchent contre les règles de l'art, mais n'en représentent pas moins la majesté de la religion et la puissance des siècles. La Confédération du Rhin est un grand ouvrage inachevé, qui demandait beaucoup de temps, une connaissance spéciale des droits et des intérêts des peuples. Il dégénéra subitement dans l'esprit de celui qui l'avait conçu. d'une combinaison profonde, il ne resta qu'une machine fiscale et militaire. Bonaparte, sa première visée de génie passé, n'apercevait plus que de l'argent et des soldats. L'exacteur et le recruteur prenaient la place du grand homme. Michel-Ange de la politique et de la guerre, il a laissé des cartons remplis d'immenses ébauches. Remueur de tout, Napoléon imagina vers cette époque le grand Sanhédrin. Cette assemblée ne lui adjugea pas Jérusalem. Mais, de conséquence en conséquence, elle a fait tomber les finances du monde aux échoppes des Juifs et produit par là dans l'économie sociale une fatale subversion. Le marquis de Lauderdale vint à Paris remplacer M. Fox dans les négociations pendantes entre la France et l'Angleterre. Pour parler diplomatique, qui se réduisirent à ce mot de l'ambassadeur anglais sur M. de Talleyrand. C'est de la boue, entre parenthèses, j'affaiblis l'expression, note de l'auteur, c'est de la boue dans un bas de soie. Chapitre 6, quatrième coalition. La Prusse disparaît. Décret de Berlin. Guerre continuée en Pologne contre la Russie. Tilsit. Projet de partage du monde entre Napoléon et Alexandre. Paix. Dans le courant de 1806, la quatrième coalition éclate. Napoléon part de Saint-Cloud, arrive à Mayence, enlève à Salbourg les magasins de l'ennemi. À Saalfeld, le prince Ferdinand de Prusse est tué. À Auerstadt et à Iéna, le 14 octobre, la Prusse disparaît dans une double bataille. Je ne la retrouvai plus à mon retour de Jérusalem. Le bulletin prussien peint tout dans une ligne. L'armée du roi a été battue, le roi et ses frères sont en vie. Le duc de Brunswick survécut peu à ses blessures. En 1792, sa proclamation avait soulevé la France. Il m'avait salué sur le chemin, lorsque, pauvre soldat, j'allais rejoindre les frères de Louis XVI. Le prince d'Orange et Mollendorf, avec plusieurs officiers généraux, renfermés dans Halle, ont la permission de se retirer, en vertu de la capitulation de la place. Mollendorf, âgé de plus de 80 ans, avait été le compagnon de Frédéric, qui en fait l'éloge dans l'histoire de son temps, de même que Mirabeau dans ses mémoires secrets. Il assista à nos désastres de Rosbach et fut témoin de nos triomphes d'Iéna. Ainsi le duc de Brunswick vit à Clostercamp, immolé d'Assas et tombé à Auerstadt, Ferdinand de Prusse, coupable seulement de haine généreuse contre le meurtre du duc d'Enghien. Ces spectres des vieilles guerres de Hanovre et de Silésie avaient touché les boulets de nos deux empires. Les ombres impuissantes du passé ne pouvaient arrêter la marche de l'avenir. Entre les fumées de nos anciennes tentes et nos bivouacs nouveaux, elles parurent et s'évanouirent. Erfurt capitule. Leipzig est saisi par Davout. Les passages de l'Elbe sont forcés. Spandau cède. Bonaparte fait prisonnière à Potsdam l'épée de Frédéric. Le 27 octobre 1806, le grand roi de Prusse, dans sa poussière autour de ses palais vides à Berlin, entend porter les armes d'une façon qui lui révèle des grenadiers étrangers. Napoléon est arrivé. Quand le monument de la philosophie s'écroulait au bord de la Spree, je visitais à Jérusalem le monument impérissable de la religion. Stettin, Custrin se rendent. Énorme victoire de Lübeck. La capitale de la vagrie est emportée d'assaut. Blücher, destiné à pénétrer deux fois dans Paris, demeure entre nos mains. C'est l'histoire de la Hollande et de ses 46 villes emportées dans un voyage en 1672 par Louis XIV. Le 27 novembre paraît le décret de Berlin, sur le système continental, décret gigantesque qui mit l'Angleterre au ban du monde et fut au moment de s'accomplir. Ce décret paraissait fou, il n'était qu'immense. Nonobstant, si le blocus continental créa d'un côté les manufactures de la France, de l'Allemagne, de la Suisse et de l'Italie, de l'autre, il étendit le commerce anglais sur le reste du globe. En gênant les gouvernements de notre alliance, il révolta des intérêts industriels, fomenta des haines et contribua à la rupture entre le cabinet des Tuileries et le cabinet de Saint-Pétersbourg. Le blocus fut donc un acte douteux. Richelieu ne l'aurait pas entrepris. Bientôt, à la suite des autres états de Frédéric, la Silésie est parcourue. La guerre avait commencé le 9 octobre entre la France et la Prusse. En 17 jours, nos soldats, comme une volée d'oiseaux de proie, ont plané sur les défilés de la Franconie, sur les eaux de la Saale et de l'Elbe. Le 6 décembre, les trouvent au-delà de la Vistule. Murat, depuis le 29 novembre, tenait garnison à Varsovie, d'où s'étaient retirés les Russes, venus trop tard au secours des Prussiens. L'électeur de Saxe, enflé en roi napoléonien, accède à la Confédération du Rhin et s'engage à fournir en cas de guerre un contingent de 20 000 hommes. L'hiver de 1807 suspend les hostilités entre les deux empires de France et de Russie. Mais ces empires se sont abordés, et une altération s'observe dans les destinées. Toutefois, l'astre de Bonaparte monte encore, malgré ses aberrations. En 1807, le 7 février, il garde le champ de bataille à Eylau. Il reste de ce lieu de carnage un des plus beaux tableaux de Gros, orné de la tête idéalisée de Napoléon. Après 51 jours de tranchées, Dantzig ouvre ses portes au maréchal Lefebvre, qui n'avait cessé de dire aux artilleurs pendant le siège « Je n'y entends rien, mais fichez-moi un trou et j'y passerai ». L'ancien sergent aux gardes françaises devint duc de Dantzig. Le 14 juin 1807, Friedland coûte aux Russes 17 000 morts et blessés, autant de prisonniers et 70 canons. Nous le payâmes trop cher, nous avions changé d'ennemi. Nous n'obtenions plus de succès sans que la veine française ne fût largement ouverte. Königsberg est emporté. À Tilsit, un armistice est conclu. Napoléon et Alexandre ont une entrevue dans un pavillon sur un radeau. Alexandre menait en laisse le roi de Prusse qu'on apercevait à peine. Le sort du monde flottait sur le Niémen, où plus tard il devait s'accomplir. À Tilsit, on s'entretint d'un traité secret en 10 articles. Par ce traité, la Turquie européenne était dévolue à la Russie, ainsi que les conquêtes que les armes moscovites pourraient faire en Asie. De son côté, Bonaparte devenait maître de l'Espagne et du Portugal, réunissait Rome et ses dépendances au royaume d'Italie, passait en Afrique, s'emparait de Tunis et d'Alger, possédait Malte, envahissait l'Égypte, ouvrant la Méditerranée aux seules voiles françaises, russes, espagnoles et italiennes. C'étaient des cantates sans fin dans la tête de Napoléon. Un projet d'invasion de l'Inde par terre avait déjà été concerté en 1800 entre Napoléon et l'empereur Paul Ier. La paix est conclue le 7 juillet. Napoléon, odieux dès le début pour la reine de Prusse, ne voulut rien accorder à ses intercessions. Elle habitait, esselée, une petite maison sur la rive droite du Niémen, et on lui fit l'honneur de la prier deux fois au festin des empereurs. La Silésie, jadis injustement envahie par Frédéric, fut rendue à la Prusse. On respectait le droit de l'ancienne injustice. Ce qui venait de la violence était sacré. Une partie des territoires polonais passa en souveraineté à la Saxe. Dantzig fut rétabli dans son indépendance. on compta pour rien les hommes tués dans ces rues et dans ces fossés. Ridicules et inutiles meurtres de la guerre. Alexandre reconnut la Confédération du Rhin et les trois frères de Napoléon, Joseph, Louis et Jérôme, comme rois de Naples, de Hollande et de Westphalie.